milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous sommes à Marrakech pour le premier forum des femmes en Afrique, Women in Africa. Plus de 250 femmes venues d'une trentaine de pays. Ceci n'est pas un poulailler, mais bel et bien l'avenir du continent. Dans tous les pays, malgré la pauvreté, malgré le manque d'éducation qui touche d'abord les femmes, dans les banlieues, dans les petites villes ou dans les villages, elles prennent la parole, elles changent leurs conditions de vie et surtout elles se projettent à travers vers l'avenir de leurs enfants. Alors s'adapter au changement climatique, à l'urbanisation, accéder à la propriété, à la consommation des classes moyennes émergentes, ces femmes sont-elles suffisamment prises en compte dans les politiques de développement et donc par les hommes? À quelles difficultés se heurtent celles qui veulent entreprendre, créer leur emploi tout simplement? Nous allons en parler avec Nayeb Batili, responsable de l'engagement parlementaire et du plaidoyer politique pour la Banque mondiale. Bonjour Nayeb Batili.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue chez 7 milliards à Marrakech. En quelques années, vous avez vu, on peut le dire comme ça, monter l'engagement des femmes dans les politiques locales?
Absolument, tout à fait. Alors, vous savez, on a eu cette grande conférence à Mexico il y a 42 ans, en 1975. À ce moment-là, on aurait dit qu'il y avait...
Vous étiez à peine née, hein, je
oui,
pense.
Oui, c'est à peu près ça. Il y avait environ 10% de femmes dans les parlements. Aujourd'hui, on a quand même réussi à doubler ce chiffre. On est à 24% pour l'Afrique et une moyenne mondiale de 20%. Mais 24% en Afrique, il y a quand même beaucoup de disparités. On connaît le Rwanda avec à peu près 61% de femmes au Parlement. Le Sénégal, 41%. On a l'Afrique du Sud et la Namibie. Ce sont donc les 3-4 pays qui ont une représentation.
Reste
là.
À savoir ce qui bouge sur le terrain.
Mais est-ce que représentation au Parlement veut dire influence et impact? On pourra en parler
non,
un peu plus.
On va en parler avec vous, bien sûr. Fatoumata Ba, ancienne dirigeante au sein du groupe Jumia. Bonjour Fatoumata, on est ravis de vous accueillir.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisines.
Vous avez dirigé le e-commerce. Hein. Jumia, c'est le Amazon africain. Vous avez dirigé le e-commerce pour la Côte d'Ivoire. Vous avez démarré de zéro, puis ensuite le Nigeria. Plusieurs pays en Afrique. Vous avez quitté Jumia, aujourd'hui vous... Alors vous avez évidemment pendant ces 5 années sillonné le continent pour comprendre la révolution de la consommation qui passe en grande partie par les femmes, bien sûr. On va en parler.
Absolument, avec grand plaisir.
Et vous vous lancez à présent dans l'entrepreneuriat social. Peut-être que vous ne pouvez pas encore tout dire, mais on aura des pistes. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Une de nos partenaires pour les 7 milliards de voisins, Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Les voisines vous connaissent bien, vous êtes rédactrice en chef du magazine féminin Brune. Et vous travaillez souvent sur les aspirations des femmes africaines, mais aussi sur les non-dits de la société, des sociétés africaines.
Bien sûr.
Un forum pour les femmes africaines, en l'occurrence surtout celles qui entreprennent et qui font entendre leur voix. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre d'initiative, Fatoumata Ba?
Alors, forcément, quand on a autant de femmes et aussi d'hommes, hein, il y a 18% d'hommes qui sont réunis aujourd'hui à Marrakech pour parler du devenir des politiques publiques, du devenir du financement des femmes en Afrique, mais aussi de projets concrets, je l'espère. Moi, j'attends d'abord un catalyseur d'idées. Parce que je pense qu'il y a énormément d'opportunités de parler de cette problématique, mais rarement par des femmes africaines sur le sol africain. Donc je pense qu'en termes de richesse, d'authenticité, de pragmatisme, on devrait avoir des échanges d'une qualité, j'espère, rare. Ensuite, j'espère aussi que c'est un lieu de rencontre qui permet à des financiers de rencontrer des entrepreneurs, qui permet à des entrepreneurs de parler aux régulateurs des paradigmes dont ils ont besoin pour pouvoir entreprendre dans les meilleurs des cas, et surtout qui permet aux femmes et aux femmes entrepreneurs, quel que soit leur parcours, de s'exprimer, de témoigner et de préparer avec nous, pour elles, l'avenir du continent, leur avenir, donc leur carrière, mais aussi avoir une perspective sur le développement. Parce qu'on le sait, le rôle des femmes dans le poids économique de l'Afrique, que ce soit dans le secteur formel ou informel, est prépondérant.
Nayeb Batili, pour vous, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Du blabla, des rencontres, du réseau?
Tout à fait. Pour moi, c'est quand même les femmes qui prennent la parole, les femmes africaines qui se prennent en charge, qui se prennent en main et qui viennent parler en leur nom. Parce que ça, c'est important. On parle souvent en notre nom et il est temps qu'on parle par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et fonder des partenariats. Parce qu'ici, on se retrouve, on est d'horizons différents, de formations différentes. Donc, c'est d'abord des partenariats, ce sont des échanges. Et les conférences, comme on dit, c'est peut-être du blabla, mais c'est surtout quand même, c'est l'occasion de créer une volonté vers une transformation.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Bon, je suis plus mitigée.
Vous êtes souvent dans les forums.
Oui, je suis souvent dans les forums.
Vous avez un regard critique souvent.
Non, en fait, j'ai l'impression que les élites se coupent de plus en plus que nous sommes. Nous nous coupons de plus en plus des populations qui font l'Afrique. Dans les forums, nous nous retrouvons en tant que personnes assurées, intellectuelles, avec un discours qui est parfois en décalage avec une réalité. Et surtout, si on veut avoir un impact sur les politiques sociales ou les politiques d'avancement des sociétés, c'est dans le pays qu'il faut se battre et non pas à l'étranger. Ouais. Qu'est-ce que Marrakech va rapporter à Dakar? Qu'est-ce que Marrakech va apporter? Est-ce que nous aurons la capacité de transmettre ces messages progressifs aux gens qui décident, c'est-à-dire aux hommes, hein, n'est-ce pas?
Alors, justement.
Donc, c'est ça le
Nayeb Attili, à la Banque mondiale, vous êtes responsable de l'engagement parlementaire, du plaidoyer politique. Comment vous travaillez avec, vous nous avez donné des proportions de femmes parlementaires maintenant, mais comment vous travaillez avec les élus africains pour les projets de développement?
C'est tout à fait cela.
Et quelle est la place des femmes dans, ces, dans les commissions notamment avec qui vous travaillez?
Alors moi ce que je voulais dire c'est que des conférences comme celle-ci, c'est un catalyseur. Elles engagent la réflexion, mais tout se passe sur le terrain. Moi ce que je fais, mon travail il est sur le terrain. J'accompagne des parlementaires sur le terrain pour voir comment ça se passe au Kenya, quels sont les projets que nous avons menés. Et c'est très intéressant.
Ce sont souvent des hommes quand même.
Non,
même
s'ils
ne sont
pas
coupés des populations.
Vous savez, on a quand même, et c'est vrai, on a quand même encore pas assez de femmes représentées dans la politique et dans les parlements. Et nous avons fait une étude sur le sujet et c'était très intéressant de voir que le plus grand frein à la participation politique pour les femmes, ce sont les contraintes familiales. Pour les hommes, c'est essentiellement l'accès au financement, mais aussi, surtout aussi, le fait de ne pas être sûr d'être élu. Mais pour les femmes, c'est les contraintes familiales et le manque de confiance en soi. Donc, on a quand même ce grand problème-là qui est aujourd'hui. Et je regarde, on a 50 parlements en Afrique, on a 10 femmes qui sont à la tête de parlement, on n'en a que 2 qui dirigent des commissions de finances. C'est au Cameroun et en Tanzanie. Donc, c'est pour vous donner une idée.
Vous, en tant que bailleur de fonds, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que Banque mondiale? Est-ce qu'il y a davantage de projets de développement
Absolument.
Qui profitent vraiment aux femmes?
Ah bah oui, parce que maintenant, il y a une composante genre dans tous les projets de la Banque mondiale. C'est une obligation. Tous
genre,
les...
traduction de gender, c'est-à-dire femmes, en gros.
Voilà, hein. Exactement. Égalité,
à chaque projet, vous vous demandez qu'est-ce qui va profiter aux femmes?
Qu'est-ce qui va vous profiter? Et on a des indicateurs chiffrés pour cela.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas, vous qui sillonnez le continent, vous avez le sentiment que les femmes se sentent davantage prises en considération?
Absolument pas. Moi, j'ai l'impression que la débrouillardise est devenue dans l'ADN des femmes africaines. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, donc il faut faire avec. Et on se bat tous les jours, au quotidien. Parce que ne serait-ce que pour avoir accès à un financement, il faut monter un dossier. Après, il faut passer un certain nombre de barrages. Une fois qu'on passe ces barrages, il y a des problèmes dont on ne parle pas. Hier, on en parlait en off, Emmanuel, mais qui peuvent être de la corruption, le droit de cuissage, des choses comme ça, et dont les femmes ne parlent pas véritablement, mais qui existent. Donc, souvent, les processus existent, mais simplement, ils ne vont pas vers les femmes. Et très souvent aussi, en Afrique, qu'on voit l'attitude des élites, on se demande si véritablement, même les femmes parlementaires travaillent pour la cause des femmes. Quand on prend le problème de la natalité, la plupart des questions sur la natalité sont prises par des hommes qui ne demandent jamais aux femmes si elles préfèrent avoir tel type de contraceptif, quels sont les problèmes. Tout est comme ça. Donc aujourd'hui, la débrouillardise, que ce soit pour quelqu'un qui va monter une start-up ou qui va avoir son commerce informel, qui va monter son salon de coiffure, qui sera artisane et tout ça, sera toujours la même chose. C'est-à-dire on se débrouille, mais maintenant on se débrouille davantage les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réseau qui existe. On se donne un coup de main, on essaye de voir sur Internet, mais c'est toujours en marge d'un système.
Femme système D, finalement.
Un modèle qui est presque théorisé. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, quand on parle par exemple du secteur informel, on sait qu'il y a davantage de femmes que d'hommes dans le secteur informel, mais le secteur informel fait partie de l'économie, et ce secteur informel est devenu, en fait, bon, on fait avec ce qu'on a, sinon on ne peut rien faire. Et ça, c'est une réalité.
Vous écoutez 7 milliards de voisins à Marrakech aujourd'hui, Women Groove Project. C'est un collectif de musiciennes avec les voix de Mami Kanoté et Ngima Massar. Voilà, on a un programme 100% féminin aujourd'hui, pendant 3 jours d'ailleurs à Marrakech pour nos émissions. Fatouma Taba, Naïe Batili, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, vous nous... Alors évidemment, vous avez des regards un peu différents au fur et à mesure aussi de vos parcours. On parle des femmes, du développement du continent africain. Certes, maintenant, toutes les statistiques le prouvent, les femmes sont une partie intégrante du développement du continent africain, de la croissance aussi économique. Naïe Batili, les femmes sont-elles aujourd'hui capables d'attirer les bailleurs de fonds sur des projets spécifiquement féminins ?
Absolument, absolument. Et je vous dis, nous avons des programmes très spécifiques. D'abord, des programmes de formation pour les femmes. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on encourage la formation en sciences et en technologie, par exemple, pour les femmes. Parce qu'on se rend compte qu'elles ont les capacités de le faire, elles ont les capacités d'exceller dans ces domaines, et ensuite d'avoir des emplois dans des domaines qui étaient réservés aux hommes, et d'avoir donc des rémunérations qui sont équivalentes à celles des hommes. Et là, on voit une transformation. On l'a fait en Ouganda, par exemple. Et on voit une transformation totale. Des femmes qui se prennent en charge, qui se prennent en main. Et du coup, on a une réduction de près de 75% des grossesses précoces, par exemple. Donc voilà un exemple concret. Mais je vais revenir, par exemple, sur un exemple, moi, qui me tient à cœur, c'est celui du Kenya. Quand on voit comment ces femmes peuvent payer avec leur petit téléphone mobile, elles peuvent payer toutes sortes de transactions, ce qui crée une compétition avec les banques qui maintenant ont facilité l'accès à la bancarisation pour les femmes. Donc on a 89% des femmes au Kenya qui ont accès au financement. Alors, et à la banque.
Bien sûr, on va en parler hein, du paiement mobile, de tout ce qui a révolutionné la vie quotidienne des femmes et donc leur participation à l'emploi. Si on reste encore un petit instant sur l'aide au développement, du côté des bailleurs internationaux, vous travaillez par exemple avec des parlementaires français. Vous croyez aux déclarations du président Emmanuel Macron aux Nations Unies d'atteindre, pour la France, hein, 0,55% du revenu national pour l'aide publique au développement d'ici 5 ans, et qui sera consacrée d'ailleurs en bonne partie à l'éducation, donc qui devrait toucher les femmes?
Écoutez, moi je préfère ne pas me prononcer sur une promesse. Hein. J'espère et je crois en la volonté de la France de vraiment être un acteur de transformation. Et aujourd'hui, quand on voit les pays nordiques qui sont à 1%, oui, de contribution.
Nous, on est à 0,38%
pour la France, 1% pour les pays nordiques, le Royaume-Uni. Je suis convaincue que la France va y arriver. C'est une promesse.
Ce que demandent les Nations Unies, ce serait 0,7%.
0,7%, et il y en a qui vont encore plus loin. Donc je suis convaincue.
Mais comment vous sentez les parlementaires français sur l'aide au développement rapport à de nouveaux donateurs, notamment les pays du Sud?
On sent qu'aujourd'hui, ils sont conscients de la nécessité. Ce n'est pas de l'aide, et je n'aime pas ce terme d'ailleurs. C'est des partenariats. Ce sont des financements, ce sont des partenariats. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les donateurs traditionnels ne sont plus les mêmes. Effectivement, il ne s'agit plus que de la France et des États-Unis qui donnent. Mais on a ces nouveaux pays, les BRIC, on a même l'Afrique du Sud qui contribue à l'aide au développement. L'Algérie qui contribue à l'aide au développement. La France et les donateurs traditionnels n'ont plus ce monopole.
Alors, on quitte les grandes institutions pour faire le grand écart. Avec vous, Fatouma Taba, vous venez d'un monde alors en pleine mutation, le numérique sur le continent africain. Comment, pourquoi avoir quitté une entreprise en fort développement, Jumia, le e-commerce en Afrique, une entreprise en même temps classique, pour vous recentrer sur des projets davantage sociaux? Racontez-nous un peu.
Alors moi, je partais d'un double constat. D'un côté, un modèle qui est nécessaire d'aide au développement, de financement, de ONG, et qui aide beaucoup dans des secteurs indispensables, mais qui, je pense, comme des fois elle est basée sur le don et la subvention, n'aide pas forcément les entreprises à être compétitives. Et je pense que lorsque des fois on enlève ces subventions, d'ailleurs elles ne survivent pas dans la plupart des cas. Et à l'autre extrême, je vois le capitalisme pur et dur, on va dire, qui se développe, avec force des emplois qui ne se génèrent pas forcément sur le continent africain, ou une création de valeur, ou des profits qui ne sont pas forcément redistribués sur le continent africain. Et moi, je suis une fervente partisane de l'équilibre, donc je crois à des modèles alternatifs, surtout pour notre continent, qui permettent d'allier le profit à l'impact social.
Et en fait, c'est la trentenaire qui parle.
C'est la trentenaire qui parle.
C'est votre génération.
Oui,
ça.
Mais C'est pas que ma génération. Emmanuel, un exemple concret. Aujourd'hui, on parle de financement participatif, de crowdfunding. C'est à la mode. Il y a plein de plateformes, Ulule, etc., qui lèvent beaucoup d'argent pour développer ça. Et c'est juste une illustration plus moderne et plus visible de quelque chose qui se faisait depuis des générations en Afrique par des femmes, ce qu'appelle la tontine. C'est l'ancêtre de la finance solidaire.
Mais aujourd'hui, donc, quel est votre constat par rapport à la fracture numérique pour les femmes?
Alors, mon constat, il est assez nuancé. D'une part, je vois, dans l'économie informelle, comme vous le disiez, il y a 70% de femmes qui sont représentées. Donc, leur création de valeur n'est pas visible. N'est pas visible des financiers, n'est pas visible forcément des régulateurs, n'est pas visible de ceux qui font les programmes d'accompagnement des entrepreneurs. Et c'est quelque chose qu'il faut changer. Et donc, typiquement, je vais vous donner un exemple concret d'une initiative qui a pu porter ses fruits dans ce domaine. Donc, en 2014 environ, il y avait cette question de réduire la fracture numérique, d'aller trouver des clients qui ne sont pas sur Internet. Parce que, quand on se lance avec un site Internet et une application mobile, c'est génial, certes, et on sait que l'Afrique est le continent du mobile, mais on n'a pas accès aux femmes au milieu rural, on n'a pas accès aux femmes qui ne sont pas allées à l'école. Donc on a équipé une centaine de femmes d'une tablette. On leur a dit, écoutez, vous pouvez parler des produits qui sont en vente sur le site, les revendre, prendre une commission, et vous pouvez le faire avec votre famille, votre...
C'est la version réunion Tupperware numérisée sur le continent africain, c'est ça.
Et l'initiative qui est partie du Nigeria, de 120 personnes, aujourd'hui il y en a 70 000, donc 45 000 au Nigeria, qui ont accès au e-commerce, mais qui ont surtout accès à un complément de revenu, qui ont du coup accès à un moyen d'émancipation. Pour la plupart, c'est un complément de revenu, mais 14% d'entre elles, c'est un revenu à plein temps. Et c'est incroyable. Et vous savez en plus que les femmes africaines, elles réinvestissent 90% de leurs revenus dans la communauté et dans leur famille. Les hommes africains, ce n'est que 30%. Donc vous savez qu'il y a un cercle vertueux.
Qu'est-ce qu'ils font du reste, les hommes?
Ah, ben écoutez, je ne vais pas parler du deuxième ou du troisième bureau, je plaisante. Et je crois à ces schémas vertueux. Et j'ai une responsabilité en tant qu'entrepreneur qui a la capacité d'exécution, qui a l'accès au capital, qui a des idées plein la tête, d'arrêter de parler et de passer du verbe à l'action.
Marie-Jeanne Serban-Thomas.
Oui, Emmanuel, juste pour revenir sur la question de l'aide au développement, je pense que toutes ces initiatives qui sont louables, qui sont très charitables, n'ont pas porté les fruits parce que, en fait, on n'a jamais interrogé les populations sur leurs véritables besoins. Est-ce que le système, par exemple, d'éducation ou de formation professionnelle que nous avons dans certains pays africains sont adaptés à l'Afrique qui bouge aujourd'hui? Est-ce que le fait d'apprendre de la philosophie, de l'histoire, de la géographie est adapté à une Afrique à laquelle on demande d'être aussi performante que les Japonais? Est-ce qu'on ne s'est jamais remis en question? Parce que tout ce qu'on apprend finalement aujourd'hui... Hier, Emmanuel, vous me disiez qu'il y avait un enseignant qui disait qu'aujourd'hui au Sénégal, il y avait énormément de jeunes qui voulaient aller faire des études littéraires, alors qu'on sait que le taux de chômage dans ce secteur est très très important. Donc il y a un manque de communication, il y a aussi la formation, l'éducation que nous donnons, est-ce qu'elle est adaptée au monde, non seulement au monde africain, mais aussi au monde africain moderne?
Marie-Jeanne, vous savez pourquoi c'est inadapté, pourquoi il y a ce gap, cet écart? C'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes, alors qu'on sait que justement les bailleurs de fonds ne me diront pas le contraire, n'est-ce pas, que quand on confie de l'argent à une femme dans le cadre d'un financement, on a une meilleure gestionnaire et donc les projets aboutissent dans de meilleurs cas. Ouais. Et ça, quelque chose à la chaîne de
valeur.
Et
les femmes remboursent mieux.
Les femmes remboursent
mieux. On continue
mieux
la discussion.
Il y a des facteurs culturels aussi, je pense.
On va parler de l'emploi, bien sûr. Tiens, on va parler aussi de la natalité. Hein, ça vous dit quelque chose, les dernières déclarations d'Emmanuel Macron et le déchaînement sur les réseaux sociaux. Fatouma Taba, Naïe Batili, Marie-Jeanne Serban-Thomas. Suite de notre discussion dans quelques instants. Les voisins et les voisines, on se retrouve donc dans un peu plus de 3 minutes à Marrakech pour le Forum des femmes africaine. Ce sera juste après le flash. Restez avec nous. On revient dans 3 minutes.
Vivez. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins à l'écoute des aspirations des femmes du continent. Nous sommes à Marrakech au Women Forum in Africa. Naïe Batili, vous êtes une de nos invitées, responsable de l'engagement parlementaire et du plaidoyer politique pour la Banque mondiale. Et vous nous le disiez en première partie d'émission, en quelques années, vous avez vu monter l'engagement des femmes dans les politiques locales, même si ça reste encore nettement trop timide. Fatouma Taba, ancienne dirigeante au sein du groupe Jumia, entreprise de e-commerce en Afrique. Vous avez sillonné le continent pour comprendre la révolution de la consommation qui passe en grande partie par les femmes. femmes et vous vous lancez à présent dans l'entrepreneuriat social avec une grande composante numérique, évidemment. Vous n'allez pas raccrocher là-dessus. Marie-Jeanne Servin-Thomas, rédactrice en chef du magazine féminin Brune. Alors, nous parlions en première partie des femmes, de l'emploi. Vous évoquiez le problème aussi de la natalité, Marie-Jeanne Servin-Thomas. Je sais que c'est un... vous avez été attentive aux déclarations d'Emmanuel Macron qui dit qu'il faut mettre l'accent sur une réduction du nombre d'enfants par femme en Afrique, même s'il a cité des chiffres largement exagérés hein, sur la natalité africaine. Vous partagez son point de vue ou pas ?
Alors, sans langue de bois, je dirais oui, tout à fait, parce que... Sur cette question, il y a très peu de femmes qui ont le choix en Afrique. Véritablement, on a l'impression qu'on est à des périodes très très anciennes, par exemple en France, où les femmes devaient se faire des toilettes après leur rapport sexuel pour éviter de tomber enceinte. Et il y a très peu de femmes, il faut le dire, sur le continent, qu'on prend les statistiques, hein, qui ont la maîtrise de leur de la maternité.
Est-ce que la natalité est un frein à la croissance? Si on prend un pays comme l'Éthiopie,
on a
10%
mais...
de croissance, 4 enfants par femme.
Ben écoutez, 10% de croissance, ça veut dire quoi quand les gens gagnent 20 euros par mois, par exemple? On prend l'exemple de l'Éthiopie, nouvelle Eldorado pour les usines textiles.
La main-d'œuvre la moins chère du monde.
La main-d'œuvre la moins chère du monde. Donc quand vous avez une jeune fille, effectivement, qui sort de sa campagne, qui n'avait rien et qui gagne 20 euros par mois, c'est-à-dire... toute proportion gardée, peut-être qu'elle est contente, peut-être qu'effectivement, c'est une valeur, elle a de quoi survivre. Mais ça permet aux occidentales d'acheter des jeans à 5 euros. Mais est-ce que ça, quelles sont ses possibilités de survie? Donc moi, je crois que c'est l'absence d'informations véritablement ciblées. Croire que la contraception est réservée seulement aux femmes mariées est une catastrophe. Vous avez des jeunes filles qui ne sont pas mariées, comme on dit, qui tombent enceintes, comme si on pouvait tomber enceinte. Donc l'approche contraception est quand même très importante.
Moi, je pense qu'il faut reprendre la question un peu à l'envers. Il ne s'agit pas de savoir est-ce que la natalité est un frein, mais est-ce que c'est la capacité de faire le choix? Si je peux choisir d'avoir l'absence de choix, si je peux choisir d'avoir cet enfant, pourquoi pas?
Et donc décrire son destin,
exactement,
y compris économique.
Mais quand il m'est imposé, quand je n'ai pas d'autre choix que d'avoir, comme par exemple au Niger, une moyenne de 7,5 enfants par femme, là c'est un problème.
C'est le taux le plus élevé.
Oui,
donc
mais là
c'est
un problème.
Fondé sur ce chiffre-là,
oui,
c'est pas la moyenne africaine.
Ce n'est pas la moyenne africaine, mais il y a quand même une moyenne élevée. Et le problème, ce n'est pas encore une fois d'avoir trop d'enfants par femme, mais c'est de ne pas pouvoir choisir. C'est vraiment cela.
Et je comprends aussi qu'un président français qui émette un avis sur un utérus africain puisse déchaîner les passions.
Et en l'occurrence, les réactions sur les réseaux sociaux.
Les réactions sur les réseaux sociaux qui sont absolument déchaînées, passionnées, je le comprends. Hein, parce qu'effectivement, il faut que ce soit des femmes qui puissent, avoir accès au planning familial, avoir cette question de choix qui est super importante dont on ayez parlé, effectivement, et choisir. Et je pense que quand on a donné le choix aux femmes dans les sociétés développées qui sont autour de 2 enfants par femme, elles choisissent si elles veulent travailler, si elles veulent faire un autre enfant. Il y a des politiques publiques autour pour permettre à la femme d'avoir accès à l'emploi. Il y a les entreprises qui réfléchissent à aménager les horaires quand c'est nécessaire, mais justement, il faut donner la parole aux femmes.
Alors justement, on parle beaucoup maintenant dans les grandes organisations internationales de l'autonomisation des femmes.
C'est un terme que je n'aime pas du tout, parce qu'en anglais, il s'agit de « woman empowerment », le pouvoir aux femmes. Et en français, on nous parle de « autonomisation ».
On n'a rien compris.
C'est juste, demander la permission,
il suffit, on me tient la main, et non, c'est juste impossible. Et c'est le problème de sémantique, et je pense qu'il est important que le français trouve les bonnes terminologies quand on parle des femmes. Parce qu'il s'agit de donner vraiment le pouvoir, le choix, de prendre des décisions, de faire des choix économiques pertinents pour elles-mêmes.
Et encore, j'ai l'impression qu'on est en train de disserter sur une personne qui ne peut pas ou qui peut moins et qu'il faut aider. Alors que c'est une personne qui n'a pas accès à la base aux mêmes opportunités. Ça démarre par l'éducation. Moi, je ne pense pas qu'il faille créer sur le papier quelque chose pour compenser et aider des femmes à s'autonomiser. Il faut leur donner accès à l'école pour qu'elles puissent choisir et prendre leur destin en main. Et quand elles le font, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Ça donne une femme journaliste, éditrice, chef de publication. Ça donne une femme qui gère les relations parlementaires à la Banque mondiale. Ça donne une femme qui dirige le leader du digital en Afrique. Donc, ça commence par là. Ensuite, il faut effectivement laisser parler les femmes pour qu'elles puissent exprimer ce qui leur manque, ce qui leur fait défaut. Moi, ce qui est intéressant, donc j'ai 2 témoignages très courts à apporter. J'ai siégé au sein d'un Women Committee qu'on a mis en place chez Jumia à l'époque. Et on a 50% de femmes chez Jumia, ce qui est génial, et on leur a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider. Et on avait des exemples de réponses, et on avait aménagé les horaires de travail. Hein, on avait des choses comme ça.
Ouais, pas très différent
les salaires,
du reste du monde.
On avait la formation. À 80%, elle répondait, me coacher pour négocier une promotion, une augmentation de salaire, me former pour passer à l'étape d'après. Et même en Afrique, personne ne répondait m'aider à rentrer plus tôt, même si c'est une préoccupation à laquelle il faut répondre quand elle est exprimée. Ça, ce sont des exemples qui illustrent quand on leur donne la parole, les femmes ont une vision très concrète et très pragmatique et ne manquent pas d'ambition. Et moi, justement, j'ai aussi travaillé avec énormément de vendeuses et de PME qui étaient opérées par des femmes. Et quand je leur dis qu'est-ce qu'il faut pour que tu passes à l'étape d'après, elles me disent mais c'est génial, parce qu'il y a toutes ces études qui disent que quand les bailleurs de fonds donnent de l'argent à des femmes, elles gèrent mieux. Et moi, j'ai un problème d'accès au financement.
Pour le microcrédit.
Voilà, et qui est colossal pour moi. À côté de
plus
ça,
plus important pour les hommes.
Exactement, forcément. Elles remboursent toutes, mais elles ont moins accès à l'information.
18,4%.
Et ensuite, elles ont moins accès finalement aux prêts. Et donc, je pense qu'on a une responsabilité voilà, de vulgarisation, de législation et peut-être moins d'entrepreneuriat sur la question du financement exclusif aux femmes pour pouvoir renverser la tendance et sortir des schémas qu'on voit et qui nous révoltent.
Je dirais juste, Fatoumata, la parole, on ne va pas nous la donner. La place, on ne nous la donnera pas. Il faut qu'on la prenne. Les femmes travaillent. Ça, c'est une réalité.
Commencer par l'agriculture.
L'agriculture. Mais combien d'entre elles ont des rémunérations? Et j'en ai parlé un peu plus tôt. Et c'est là où il est important d'avoir des femmes dans des secteurs d'activité qui étaient réservés aux hommes. Parce qu'à ce moment-là, elles ont des salaires et des rémunérations qui sont équivalentes, ou en tout cas, qui se rapprochent de celles des hommes.
À quoi vous pensez comme secteur?
Vous savez, l'électricité, la soudure. Je ne parle même pas d'emplois super qualifiés, mais des emplois qui demandent une certaine qualification, une certaine formation. Et c'est encore une fois le besoin de formation.
Il y a des programmes en Inde, par exemple, qui forment des femmes qui ne sont pas éduquées, analphabètes, pour entretenir notamment des réseaux d'électricité très simples, des panneaux solaires, des choses comme ça.
On a ça en Ouganda. On a créé les mêmes programmes en Ouganda, au Malawi.
Naya, je ne sais pas si c'est une question de salariat, hein, parce que finalement la rémunération elle est là, parce qu'elles ont toujours une activité. L'enjeu que je vois, c'est vraiment de basculer de l'informel au formel, hein, parce que c'est une activité qui n'est pas quantifiable, qui ne donne pas droit à une couverture santé, une couverture maladie, qui par définition n'est pas traduite dans les chiffres des organismes, parce qu'elle n'est pas déclarée. Et je pense que c'est justement ce qu'il faut peut-être encourager, leur donner l'opportunité de créer de l'emploi. Quand je regarde un pays, et je pense qu'on en parlait Emmanuel, comme le Nigeria, tout le monde fantasme un petit peu sur le fait qu'elles dépendent énormément du pétrole. Et c'est vrai. Mais le pétrole, finalement, c'est autour de 10% du PIB. Mais c'est 70% des recettes fiscales. S'il y avait l'arachide que vend la petite nana au coin de ma rue à Dakar qui était prise en compte, comme quand ils ont pris en compte Bollywood dans l'économie, ils se sont rendus compte que le Nigeria était avant l'Afrique du Sud, bah vous verrez que le poids des femmes, l'emploi salarial et leur impact dans leur communauté, dans l'économie, serait beaucoup plus représenté. C'est ce qu'il faut encourager. Encore une fois, l'éducation, la formation, le financement, donc de l'accompagnement plutôt que du fantasme sur la compensation d'un déficit que les femmes n'ont pas.
Mais moi, je pense aussi qu'il y a un véritable problème politique sur le continent. C'est qu'aujourd'hui, qu'on voit un petit peu les systèmes qui sont en place, qui rendent toutes les grâces à la politique et non pas du tout à l'économie. Moi, j'ai participé à des forums sur l'emploi des femmes en Côte d'Ivoire et il y avait des gens des impôts qui étaient là. Donc, dans la salle, certaines femmes disaient « Oui, comment faire pour passer de l'informel au formel? Est-ce que vous allez nous taxer ?» Et ce monsieur des impôts, au lieu de dire « Écoutez, on part de zéro et puis on va essayer de voir comment alléger les charges », en fait, il a dit « Bon, écoutez, on va voir ». Donc, en fait, toutes les femmes ont eu peur. Et la majorité des femmes qui étaient dans la salle, à peu près 200 femmes, qui étaient dans l'informel, et il y en avait qui étaient à la tête de coopératives, 150, 200 femmes, en fait, à la fin de la session, il n'y en a aucune qui voulait rentrer dans le formel, parce qu'elles avaient peur.
Elles payent déjà de l'impôt via la TVA, mais bien c'est sûr. Vrai que lever l'impôt sur le continent africain, c'est culturellement compliqué, en fait.
C'est culturellement compliqué parce qu'en fait, le système qui est finalement calqué complètement sur le système occidental, n'a pas pris en compte un certain nombre de choses. En France, quand vous avez un salaire, forcément, ce salaire est déclaré à tel endroit, à tel endroit. En Afrique, il n'y a pas toutes ces structures. Moi, j'ai une amie qui me racontait, elle a eu un redressement fiscal au Cameroun, on lui avait demandé 10 millions CFA. Finalement, elle a payé quoi, 30 000 CFA en négociant. Donc ça veut dire, est-ce que ces 10 millions n'étaient pas justifiés? Est-ce parce qu'elle était mignonne qu'elle a réussi à avoir 30 000? Donc c'est basé sur quoi? Et surtout qu'elle n'avait pas une activité qui était vraiment installée, ni quoi que ce soit. Donc il y a ce problème-là. Il y a un problème de formalisation. Et deuxièmement, les banques ne jouent absolument pas leur jeu en Afrique. Ça veut dire, quand vous demandez aux gens, finalement, de passer de l'informel au formel, ça veut dire avoir accès à un certain nombre de prestations sociales, mais aussi être bancable, pouvoir demander un prêt à une banque. Les banques africaines ne jouent absolument pas leur rôle de financier de l'économie africaine. Donc pourquoi vous voulez sortir...
Il y a du microcrédit, ceci dit.
Oui, mais le microcrédit, c'est très petit.
Je pense que c'est...
C'est, les sommes sont très petites.
Et rien d'intermédiaire entre le microcrédit et la banque, finalement.
Voilà. Donc, en fait, il y a les tontines encore. Jusqu'à présent, moi, je connais des filles qui ont monté, par exemple, des cybercafés avec des tontines.
Vous pensez que le crowdfunding a de l'avenir sur le continent africain, Fatouma Tamba? C'est-à-dire, pour le moment, c'est essentiellement la diaspora, les Béninois de l'étranger qui vont aider un projet au Bénin, en envoyant, en cliquant, en donnant le numéro de leur carte bancaire. Mais c'est tout petit pour l'instant.
Alors, c'est intéressant. On a beaucoup parlé d'ado-développement. Je pense que vous le savez mieux que moi. La contribution de la diaspora sur le continent africain est supérieure à l'ado-développement. Donc ça, c'est un premier fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment utilisé de manière intéressante, certes, mais plutôt, par exemple, pour payer des scolarités, pour payer des frais de santé, pour peut-être construire une maison. Ce qui est très, très bien, mais c'est moins utilisé dans une optique d'investissement. Le crowdfunding, c'est un mode de financement comme un autre. Et in fine, c'est donner à un groupe de personnes l'opportunité d'apporter une contribution financière à la hauteur de leurs moyens pour atteindre un objectif. Donc que ce soit sur le digital, via une tontine, via un groupe Facebook, la finalité est la même et ce sont certainement des moyens à encourager. Je pense que les banques effectivement ont un rôle à jouer, mais tant qu'elles ne le jouent pas, il y a des acteurs alternatifs. Vous savez aussi que voilà, il y a 1 milliard d'euros qui transitent par mois sur Orange Money et les Africains n'attendent pas que les bancarisent pour se bancariser. Donc il y a une opportunité énorme pour les entrepreneurs. On appelle ça le equity gap. En Europe, moi en Afrique je dirais un equity void, equity gap ça veut dire un fossé d'equity et moi j'appelle ça un vide abyssal de financement et
pour les femmes.
Pour celles qui le combleront, ceux et celles qui le combleront, ce n'est pas qu'une responsabilité parce qu'on parle, la sémantique est importante, tu le disais Naïe, on dit on doit financer les femmes, mais c'est une opportunité incroyable. Ceux qui financeront les femmes africaines, les femmes et hommes, ne soyons pas sectaires,
surtout qu'elles remboursent
et surtout les PME, surtout les PME qui emploient aujourd'hui 80% des Africains seront les millionnaires de l'avenir. Et moi j'y crois dur comme fer et c'est pour ça que je me lance.
Et d'autant que justement vous allez nous parler de vos projets Fatouma Tamba, d'autant que les femmes deviennent aujourd'hui vraiment des actrices de la consommation avec la petite classe moyenne émergente. Encore faut-il savoir ce que c'est que cette classe moyenne, on n'arrive pas tellement bien à la définir. Vous restez avec nous, les femmes consommatrices, les femmes aussi actrices de l'adaptation au changement climatique, gigantesque défi sur le continent africain qui sera touché de plein fouet par le réchauffement climatique dans les années à venir. On y revient dans quelques instants. De voisins à Marrakech, vous venez d'entendre Ibeyi, le groupe Ibeyi, ça veut dire jumeaux en Yoruba. Ce sont des deux jumelles franco-cubaines, filles du percussionniste de Buena Vista Social Club. Voilà, c'est le petit programme 100% féminin concocté par Jérémy Bessé et leur deuxième album sort vendredi. Ça, c'est pour vous, les filles. On vous l'offre. Ça vous plaît ?
Beaucoup, très bien.
On parle des femmes, du développement sur le continent africain. Fatouma Tamba, vous vous lancez maintenant sur des projets d'économie sociale, solidaire, je ne sais pas comment il faut appeler ça, après 5 ans passés dans une économie classique, dans un projet d'entreprise Jumia, le e-commerce. Pourquoi vous changez votre fusil d'épaule aujourd'hui? Pourquoi faire finalement toujours sur la participation des femmes à la consommation du continent, bien sûr.
Je pense que c'est plutôt passer de l'épaule droite à l'épaule gauche, hein, parce qu'in fine, on a parlé de l'opportunité de l'entrepreneuriat, on a parlé de cette responsabilité, de cette opportunité d'accompagner les femmes, on a parlé de cette nécessité de créer des nouveaux modèles. Tout naturellement, je pense qu'à un moment donné, il faut être cohérent vis-à-vis de soi-même et arrêter de témoigner dans des conférences de ces opportunités et se lancer. Et ma démarche, elle est très simple, c'est que j'ai eu une posture d'observatrice très privilégiée pendant 5 ans, en voyant dans ces 33 pays toutes ces femmes et tous ces hommes qui entreprenaient. Et quelquefois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que peu de choses à faire pour créer une véritable filière. Si je prends par exemple le secteur de la mode, hein, les designers de mode, je me rappelle que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Nigeria.
Vous avez une spécialiste en face de vous, attention.
Ah, génial. Hein. Je me suis
essayée.
Elle
n'est pas toujours optimiste d'ailleurs.
Je me suis essayée à deux choses. Donc en Côte d'Ivoire, je voulais lancer une marque de mode locale. Éthique, hein, parce qu'effectivement, on est inondé de conteneurs qui viennent de l'Asie, ce qui peut être une bonne chose parce que c'est pas cher, mais ça ne crée pas des emplois en local et ça ne valorise pas le savoir-faire local. Et en fait, lorsque j'ai donné la vitrine sur le site internet avec les budgets marketing pour attirer les clients, ça a cartonné, mais je n'avais plus de stock. Donc j'allais voir mes designers en leur disant « Mais qu'est-ce que vous faites? On a une opportunité considérable. » Et de leur propre aveu, ils me disaient déjà « Un, je ne sais pas financer mon besoin en fonds de roulement. Hein, donc moi, j'ai besoin de vendre pour pouvoir réacheter, produire, et ça, je n'ai pas accès au financement. » Donc, première opportunité. Deuxième chose, ils me disent, ça va très vite. Et en fait, moi, je sais gérer jusqu'à 100 articles par semaine, mais 1000 articles par semaine, c'est difficile. Et troisième chose, c'était le débouché, mais bon, là, en l'occurrence, on le trouvait via le canal Internet. Et ça, j'ai réfléchi. Et imaginez-vous, quand vous revenez vers la même personne et que vous lui dites, écoutez, comme moi, je sais quel est le chiffre d'affaires que tu fais, et en plus, c'est moi qui collecte le cash, vu que c'est moi qui fais la livraison, je peux te prêter. Hein, donc, c'est une avance sur le besoin en fonds de roulement, c'est comme une forme de prêt, finalement. Ça cartonne, il a déjà répondu à un tiers de l'équation. Le deuxième tiers de l'équation, je lui dis, écoute, si tu ne sais pas produire en série, allons faire un partenariat commercial avec un producteur. Et donc, on est allé voir, à l'époque, c'était Seritex, qui est une entreprise qui fait à la base du textile, mais commercial, qui n'avait pas le savoir-faire de design classique. Et on a ramené le meilleur des deux mondes. Donc, on avait le design, la coupe, le tissu, l'expertise qui venait du designer, la production industrielle, contrôle qualité qui venait de ce partenaire, et ça a été un grand succès commercial. Et du coup, ces modèles-là, je pense qu'il ne faut plus les voir comme des modèles périphériques.
Vous allez vous poser comme agrégateur, c'est ça?
Alors moi, je crois au pouvoir des plateformes. Je pense qu'un acteur ne peut pas construire toute une chaîne de valeur. Il y a déjà des pans qui existent. Vous voyez, ce designer, il existe, il a le talent que je n'ai pas, il a donc le savoir-faire.
Donc tous ces gens-là vont aller sur des plateformes. Alors, que vous allez monter?
Absolument. Des plateformes qui ne sont pas forcément d'ailleurs digitales. Parce que quand je parle de plateforme au départ, c'est une filière. Il y a des pans. Il y a le textile. Il y a la production aux séries.
Ça s'appelait autrefois des chambres de commerce, hein, par secteur.
Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, soit il manque un pan. Et quand il manque un pan, il faut savoir se substituer à lui ou créer des partenariats ou alors peut-être même créer une usine de production en série, en local, pour permettre justement à la filière d'émerger. Et ensuite, bien sûr, avoir un volet digital, pourquoi pas, pour la commercialisation. Moi, j'adorerais dire, moi je suis une technophile convaincue depuis mon enfance, j'adorerais dire que le succès, c'est un succès aussi d'appétence Internet. Ce n'est pas le cas. Dans une ville comme Lagos, il y a 20 millions d'âmes, il n'y a que 2 hypermarchés de plus de 60 000 mètres carrés. Hein, on parlait de non-choix tout à l'heure. Donc quand vous donner le choix aux gens, forcément ils vous rendent l'appareil et ils achètent et ils vous sont fidèles.
Et donc, ils n'ont pas accès à Internet.
C'est une très bonne question, Naïe. C'est pour ça que justement je parlais tout à l'heure de modèles alternatifs. Je me suis dit, moi ma grand-mère, elle n'ira jamais acheter sur Jumia par elle-même, parce que non seulement elle n'est pas sur Facebook, mais elle n'est pas lettrée. Hein, donc en ayant créé par exemple cette opportunité de femme qui allait vulgariser, non pas une technologie, mais une option, une possibilité. Hein, ouais. D'avoir accès à un produit.
Vous n'êtes plus à Jumia, mais vous restez quand même une femme du e-commerce. Hein.
Ah, forcément,
ça se sent.
Digital. une digitale convaincue.
Marie-Jeanne Sabin-Thomas, sur toute la création textile, sur lesquelles certains pouvoirs politiques d'ailleurs commencent à miser.
Oui, alors là, en fait, il s'est passé quelque chose d'intéressant, par exemple, au Bénin. Le Bénin, qui avait des usines textiles dans les années 60, il n'y en a plus, comme dans tous les pays d'Afrique francophone, il n'y a plus du tout d'usines textiles. Aujourd'hui, il y a un retour un petit peu aux sources, c'est-à-dire que le Bénin vient de lancer un tissu traditionnel s'appelle le canvau. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est tissé sur place. En fait, les cotoculteurs donc fournissent la matière première. Le produit est tissé et ensuite il est teint sur place et il est vendu. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est que vous avez beaucoup de femmes qui sont dans la chaîne du travail. Elles sont soit teinturières, soit tisserandes. Et en plus, elles sont stylistes. La difficulté, quand on parle du textile en Afrique, c'est... vous avez eu la prédominance, je dis l'impérialisme du wax, qui n'est pas du tout africain, qui a détruit l'imaginaire de beaucoup de créateurs en leur donnant à penser que avoir un tissu très coloré suffisait à créer quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il y a une refonte des mentalités. Et quand il y a ce canvau qui arrive, c'est toute une histoire, hein, comme j'expliquais au ministre de l'Industrie, que le succès d'une maison comme Hermès, ce n'est pas seulement les produits qu'ils font, c'est l'histoire qu'il y a, c'est la technologie, c'est le savoir-faire. Et derrière le canvau, voilà, mais ce savoir-faire n'est pas assez valorisé.
Enfin, la révolte du wax colonial, c'est quand même une révolte de femmes à bac plus 18, hein, excusez-moi, là, oui, mais vous êtes entre vous, là.
Hein, non, c'est en train de changer, les choses sont en train de changer. Par exemple, le textile traditionnel, par exemple, fait par...
Il y a un retour au pain tissé au Sénégal,
c'est une réalité. J'étais dans un très grand hôtel à Dakar, et toutes les chambres étaient, les rideaux des chambres étaient faites avec des pains tissés fait localement par des femmes.
Et puis au-delà du débat sur la mode, je pense qu'il y a un débat économique, hein, parce qu'on est aussi en train de parler du fait de donner le pouvoir à celui qui crée de la valeur. Aujourd'hui, l'industrie textile, qu'est-ce que ça fait? On source un wax qui est produit en Hollande, avec des coûts de production plus élevés. Tout à fait, qui arrive sur le sol avec déjà des coûts logistiques qui font gonfler le prix, qui est ensuite distribué dans des circuits logistiques avec des intermédiaires qui prennent une part de marché. Et finalement, l'Africaine paie le prix fort. Et nous, on pense à ce modèle alternatif où il y a un producteur qui a le talent, un designer, et crée un circuit court pour que la création de valeur lui revienne dans la majeure partie des cas parce que son savoir-faire, il est là. Et le marché, il est aussi là.
Bon. Alors, on a parlé de cette consommation, que ce soit de la consommation haut de gamme, mais aussi la consommation des femmes ordinaires. On n'a pas encore parlé de l'adaptation au changement climatique, qui est un débat crucial qui concerne avant tout d'ailleurs les femmes dans les zones rurales. Naïe Batili.
Écoutez, Emmanuel, moi j'ai travaillé avec l'Union interparlementaire pour mettre en place un groupe de parlementaires qui est essentiellement dédié à cela, essentiellement dédié à l'application des accords de Paris où l'Afrique a joué un très très grand rôle. Pour une fois, et je pense que ça a été vraiment, l'Afrique est venue ensemble discuter de l'adaptation d'une seule voix.
Est-ce que les femmes ont leur mot à dire sur l'adaptation au changement climatique par rapport au financement qui arrive sur le
continent
africain?
Absolument, femmes et hommes. Et je pense qu'il y a des moments où il faut arrêter cette dichotomie hommes et femmes d'ailleurs. C'est un débat vraiment entre Africains et un partenariat hommes et femmes. Parce qu'aujourd'hui, les inondations, l'érosion côtière, moi je vois ce qui se passe dans des pays comme le Bénin où on a toutes des côtes entières qui ont disparu, c'est un problème pour les femmes, mais c'est un problème aussi pour toute l'humanité africaine. Mais là, il y a une véritable coopération des femmes et des hommes africains. Et des politiques aussi.
Alors justement, quand je parlais de ce tissu au Bénin, en fait, ce qui est intéressant quand on parle, parce que j'ai interrogé le ministre sur le problème de la COP21, donc vous avez un produit qui est fait localement, puisque maintenant ils sont de plus en plus sur le coton bio. La teinture, ce sont des teintures végétales qui sont homologuées et donc qui sont non toxiques et tout ça. C'est un produit qui est fait sur place, donc vous n'avez pas de système de prendre l'avion ou des bateaux, donc encore pollué. En plus, c'est un produit éthique, puisque les gens sont payés de façon éthique par des coopératives et tout ça. Donc, uniquement ce petit bout de tissu, en fait, je ne dis pas qu'il va résoudre tous les problèmes d'environnement, mais cette prise en compte, finalement, de la chaîne de transformation, la chaîne de diffusion, et son apport, finalement, son coût énergétique, c'est déjà un pas très, très important. Mais malheureusement, il faut dire aussi que l'information sur l'écologie en Afrique reste quand même très parcellaire.
J'allais y venir, parce que ça me rend optimiste, les exemples dont vous parlez. Hein, mais les personnes n'ont pas encore d'elles-mêmes conscience que l'écologie, c'est quelque chose d'important. Pour caricaturer, des fois, ils se disent « bon, bah, ça, c'est des problématiques de pays développés ». Parce que nous, il faut déjà s'occuper de la dépense quotidienne, comme on dit par exemple au Sénégal. Donc je pense qu'il faut déjà faire en sorte que les Africains s'approprient le combat de l'écologie en faisant de la pédagogie, en montrant aussi les opportunités business. Hein, je pense au solaire, hein, qui est une opportunité incroyable, qui n'est pas aujourd'hui...
Des plastiques, des sacs plastiques dans certains pays aussi.
Absolument, absolument.
Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience réelle aujourd'hui. Moi, je suis très optimiste par rapport à cette prise de conscience. Et ces femmes qui s'assoient autour de la table, Les femmes sont là, elles sont présentes, elles sont dans la politique, elles sont dans le business, et on les entend, on les voit, et elles prennent les choses en main. Ça, c'est une réalité à tous les niveaux.
Marie-Jeanne Serbin-Thomas, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qui vous rend optimiste pour les femmes en Afrique?
Mais je pense qu'en fait, leur ADN de débrouillarde va être encore plus dense, on va se débrouiller encore plus, et qu'un jour, les hommes auront un regard plus bienveillant sur nous, les femmes. Et là, les choses vont changer. Mais jusqu'à présent, je crois qu'il y aura deux mondes parallèles, des femmes qui vont se battre, qui vont réussir. On sera de plus en plus nombreuses. Et puis, des hommes, en fait, qui seront un petit peu largués à un moment et ils vont accepter de partager le gâteau.
Merci à toutes les trois. Merci Fatouma Taba, Naye Batili, Marie-Jeanne Serbin-Thomas. L'émission a été préparée par Cécile Lavolo, réalisée par Jérémy Bessé. Demain, 7 milliards de voisins, nous poursuivrons nos rencontres au Forum des femmes africaines. On s'intéressera aux carrières des femmes dirigeantes cette fois-ci. L'Afrique est-elle devenue le continent des possibles pour elles? Quel plafond de verre subsiste? On entendra des parcours de vie, des analyses avec Nadia Mensah-Akoni, qui est auteure du classement, le fameux classement que vous connaissez, Fatouma Taba, Forbes Afrique des 100 femmes les plus influentes du continent, avec Bimpen Konchou, qui est avocate nigériane, et Aïda Diarra, vice-présidente Afrique de Western Union. Voilà, de quoi donner du souffle à vos rêves, les voisines. À demain, même heure, même endroit, 10h10, temps universel, sur RFI. Présent.